très précise, mais j'avais quand même une question qui me paraît importante. Vous avez parlé des articles organiques et de l'article 10 qui donne la juridiction de la chose ecclésiastique, on va dire, aux évêques.
Et uniquement aux évêques.
Et uniquement aux évêques. Mais les évêques qui, du coup, deviennent les préfets violets de la République ou de la monarchie, alternativement, ont eu barre temporelle sur tout le clergé, que ce soit le clergé régulier ou le clergé séculier. Or, dans votre petit croquis, là, qui est bien intéressant, on ne voit pas cette liaison entre l'évêque et les franciscains. C'est-à-dire que donc y a-t-il une direction temporelle et spirituelle de l'évêque représentant du pouvoir français quelque part
sur les clarisses,
sur les franciscains. Alors sur les clarisses oui, mais sur les franciscains, ce qui expliquerait parfaitement que les récollets aient pu être expulsés de la Loire, aient pu être expulsés par le préfet, ce qui expliquerait aussi l'expulsion de tout le territoire français des jésuites qui ne jouaient pas le jeu, en quelque sorte, et qui restaient sous la juridiction du pape. Alors, qu'en est-il? Est-ce que les franciscains avaient quitté la juridiction papale en route
pour, si vous voulez, les franciscains, ils n'existent pas avant les années 1850. Et est-ce qu'ils sont, en principe, vous avez raison, ils doivent être sous la juridiction de l'évêque, il n'y a pas de problème, il n'y a à avoir que de juridiction épiscopale. Alors de fait, vous me posez une question qu'il faut que je travaille un petit peu davantage, c'est sûr, c'est la question de la résurrection des hommes par rapport à l'évêque, c'est sûr. En gros, à mon avis, il faudrait voir comment concrètement, par exemple, se fondent les couvents. Par exemple, je vous ai dit, dans les années 1850, se fonde un noviciat de franciscains à Amiens. Très concrètement, comment ça s'est passé? Il est évident que l'évêque a dû avoir son mot à dire, c'est évident, c'est sûr. Mais là, si vous voulez, mes schémas, je me suis concentré surtout sur les femmes. Voilà, surtout sur les femmes. Ce que je voulais simplement montrer, c'est que il y avait une juridiction à la fois spirituelle et temporelle. La juridiction temporelle, c'est qu'est-ce qu'il faut faire comme travaux, même si il y aura quelqu'un de très important que je ne confonds pas, qui est le syndic. Le syndic, c'est quelqu'un qui concrètement aussi va trouver des fonds, etc. Mais juridiction spirituelle et temporelle. Après le concordat, c'est toujours l'évêque qui l'a sur le ministère de Clarisse. Mais parfois, je dirais qu'il peut faire, quand il est bienveillant, il peut déléguer sa juridiction spirituelle sur les frères, qui vont alors l'exercer aussi sur les sœurs. Et ça réjouit beaucoup les sœurs, que cette juridiction spirituelle puisse être déléguée sur un frère. Mais on est bien d'accord qu'on n'est jamais dans la situation comme avant la Révolution. Ou avant la Révolution, c'est sûr. C'est le ministre provincial. Quand on veut construire quelque chose dans un monastère, quand c'est quelque chose d'important, ça passe toujours au définitoire des frères. On en discute à la province, etc. Et puis, tout ça se discute quand un frère passe ici, Donc cette double juridiction, même si l'évêque, surtout après le Conseil de Trente, a de plus en plus de pouvoir, même avant la Révolution. On a par exemple, je crois, avant la Révolution, on a des recueils où on voit que les postulants qui veulent, ou les novices qui vont être admis à profession, sont interrogés soit par l'évêque, soit par son représentant. C'est à ce moment-là déjà l'évêque qui a ce pouvoir. Et on a comme ça de très bons interrogatoires intéressants où les jeunes filles disent si on fait ça librement, etc. Donc il y a déjà, si vous voulez, des jurés. Après le Conseil de Trente, finalement, c'est une espèce de montée en puissance du pouvoir épiscopal, qui n'a jamais cessé depuis. C'est toujours le pouvoir épiscopal qui sort vainqueur d'une certaine manière. maire de, voilà. Et le pouvoir des réguliers est le moins important. Voilà. Mais vous avez raison, quelque chose qu'il faut travailler davantage, cette question de la juridiction de l'évêque sur les ordres masculins qui vont rentrer, qu'on va laisser faire finalement. Qu'on va laisser faire, puisque je dirais, d'une certaine manière, il reste, les dominicains, les franciscains, restent interdits. C'est pour ça qu'en 1880, ils pourront être expulsés sans problème. En 1905, 1903, ils pourront encore être expulsés. Puisqu'à priori, ils n'ont pas le droit de citer. Ce n'est pas exactement la même juridique, la même législation pour les femmes. Bon, voilà. Merci pour toutes vos questions.